Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Pagaille sur les rails ce matin, conséquence des orages. Il y a de nombreux retards sur la ligne Toulouse-Paris dans la Loire. C'est une tornade qui a surpris les habitants. Les dégâts sont nombreux. Les fouilles vont reprendre ce matin dans le Tarn après la découverte de premiers ossements. Hier, ce pourrait être ceux de Delphine Jubilard, dont le mari, Cédric Jubilard, a reconnu le crime. Et quel nom de famille avez-vous donné à votre enfant si le nom paternel reste monnaie courante? De plus en plus de parents font le choix d'un nom composé.
Plus de 140 000 éclairs recensés hier en France.
Des orages qui ont encore une fois balayé une bonne partie du pays, l'Alsace, l'Isère ou encore la Loire, où 8 000 foyers étaient privés d'électricité. Hier soir, les dégâts sont nombreux, conséquence de la pluie, du vent, de la grêle, mais aussi une tornade qui a tout balayé sur son passage au Villars, au nord de Saint-Étienne. Philippine Boulet.
La tornade, Seigneur.
Face aux rafales, la voiture de Mathis tremble.
Ça faisait des tourbillons et c'était vraiment, vraiment très, très local. Et c'est surtout à la puissance que ça avait, que ça arrachait les panneaux, que ça a coupé un arbre en deux.
Au point de tout emporter.
Ça enlevait le bardage de l'Intermarché qui était juste à côté. Ça a couché deux poids lourds sur l'autoroute juste au-dessus.
Joris habite à Villars, commune traversée par la tornade. Après son passage, sa rue est méconnaissable.
Ça a arraché toutes les poubelles, ça les a toutes mises sur la route. Après, on a tout ce qui est feuilles, poussière ou même des détritus qu'on peut retrouver un peu de partout. Des tuiles qui ont fini sur la rue en bas de chez moi. J'ai des voisins qui ont eu des toitures arrachées.
C'est le cas d'Anne-Sophie, elle vit à quelques rues de là.
On se sent impuissant, tout notre extérieur est dévasté.
Le vent a emporté le toit de sa résidence.
Pour nous, c'était inenvisageable que le toit de notre bâtiment s'arrache. Il a même pas 2 ans. Le camion de mon mari, y a un bout de toiture sur le camion.
Tous les habitants de la résidence ont été relogés par la mairie, au moins pour la nuit dernière.
Des orages également dans le sud-ouest avec des conséquences sur les rails. La chute d'un arbre a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire dans le Lot entre Gourdon et Souillac. Plusieurs heures de retard ce matin jusqu'à 6 heures sur les intercités entre Paris et Toulouse. La SNCF espère une reprise du trafic pour 9 heures.
Et on attend vos témoignages ce matin. 3216, le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Est-ce que vous avez vécu ces orages chez vous? Est-ce qu'il y a des dégâts? On vous attend.
Et sur la route, il y aura du monde. Aujourd'hui, bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur une bonne partie de l'est du pays. C'est orange partout ailleurs. Notez que l'autoroute A6, fermée depuis dimanche en raison de l'incendie de Fontainebleau, a été rouverte hier soir.
RMC 7h03, il reconnaît un acte abominable. Les regrets de Cédric Jubilard, passé aux aveux devant les juges.
Il a reconnu la mort de sa femme, disparue depuis décembre 2020 et dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Le peintre plaquiste a aussi délivré les lieux de là où il aurait déposé le corps, du côté de Mayoc, dans le Tarn. Des ossements y ont été retrouvés. Hier, on retrouve Jean-Wilfried Forquès sur place ce matin. Jean-Wilfried, les fouilles vont reprendre ce matin.
Oui, c'est ça, Thibaut. Les accès du sites sont fermés, surveillés par les gendarmes de Périgueux depuis hier. Les fouilles ont repris au lever du jour ce matin ici sur place. Il y a des médecins légistes, des biologistes et même un anthropologue sur le site, sur ce chantier qui a débuté hier après-midi. Des ossements ont été retrouvés, des ossements du corps de Delphine Jubilard, notamment deux fémurs. La police scientifique veut reconstituer dans les prochains jours la totalité du corps et pour cela, il faudra retrouver les ossements qui manifestement ont été dispersés. Les ossements doivent ensuite être analysés par des spécialistes de la police scientifique au siège de l'IRCGN à Pontoise. Il faut dire si c'est bien le corps évidemment de Delphine Jubilard, même si c'est son mari qui est venu indiquer le chemin aux enquêteurs hier matin ici même. Savoir si ce corps a subi des violences et éventuellement quel type de violence. Et puis petite nouveauté de taille, Thibaut. Petite nouveauté ici sur le chantier, sur ce site des fouilles. On a vu l'apparition ce matin d'une grue qui se trouve à 200 mètres de moi, une grue mobile. On n'en connaît pas vraiment pour l'instant l'utilité, mais si elle est là, c'est qu'elle doit servir.
Jean-Wilfried Forquès dans le Tarn pour RMC, ce rebondissement donc dans l'affaire Jubilard. Ces ossements retrouvés vont-ils parler? C'est en tout cas une nouvelle étape qui commence. On va y revenir juste après ce journal avec notamment l'avocate des enfants du couple Jubilard.
Sénateurs et députés s'accordent sur le projet de loi d'urgence agricole, un compromis sur un texte contesté, la faute à la réintroduction notamment de pesticides jusque-là interdits. Cela doit encore passer entre les mains de l'Assemblée nationale. Un vote ultime lundi à l'ambiance, Sonia Gobry s'annonce tendue.
Désastre écologique, horreur sanitaire, à gauche les qualificatifs ne manquent pas. Parmi les mesures crispantes, la réintroduction de deux insecticides interdits en France, le flupyradifurone et l'acétamipride, mais seulement si l'Agence nationale de sécurité sanitaire accorde une dérogation. Comme ça, la science décidera, défend un député LR. Garde-fou insuffisant, rétorque un écologiste. Alors dans cet hémicycle polarisé, les regards se braquent sur les députés du Bloc central, Horizon, Modem, Macroniste, droite et gauche, les sommes de se positionner. Franchement, lundi, leur vote sera décisif, mais le Bloc central est divisé et embarrassé par la question des pesticides. Feront-ils la politique de la chaise vide, s'interroge une insoumise, quand une députée socialiste met la pression. À 9 mois de la présidentielle, dit-elle, pas de place pour la lâcheté.
Sonia Gobry, service politique RMC. Louise et Gabriel restent les prénoms les plus donnés en 2025. L'INSEE vient de dévoiler son classement chez les filles. Jade et Ambre complètent le podium. Adèle et Alice font leur apparition dans le top 10. Chez les garçons, Noah et Léo sont deuxième et troisième.
Alors, il y a le choix du prénom, mais une fois que vous avez trouvé le prénom de votre enfant, il faut aussi s'accorder sur le nom de famille.
Celui du père, majoritaire dans 78% des cas, de la mère ou encore les deux. Un choix possible depuis 2005, préféré pour 15% des nouveau-nés en 2025, nous dit encore une fois l'INSEE. Chiffre qui ne cesse de progresser. Marion Gauthier a pu se rendre compte dans un jardin parisien.
Entre le bac à sable et la petite fontaine, Ludmila regarde ses deux enfants.
Leur père est albanais, donc ils sont franco-albanais. Qu'ils aient les deux noms et aussi les deux héritages et les deux cultures jusqu'au bout. Et comme ça, on a aussi le même nom de famille quand on voyage, vu que maintenant je suis divorcée.
Et sur le banc d'en face, derrière le toboggan, il y a Amine, ses trois enfants autour de lui.
Pour le nom de famille, naturellement, c'est venu celui du père.
Le vôtre.
Je pense par tradition. Pour moi, c'est pas une discussion liée à l'égalité femmes-hommes. Le salaire, les promotions, ça c'est beaucoup plus important qu'un nom de famille.
Et parfois, ce n'est pas un combat, juste une question de sonorité. Clémentine, vous avez choisi de ne garder pour vos enfants que le nom de votre compagnon à la vie.
Oui, c'est quand même assez léger. Chopin, c'est un peu plus... c'est plus franchouillard, donc je préférais.
Et une dernière question posée par Monica, d'origine mexicaine.
Quel pourcentage les sommes, il perd son nom pour prendre celui des femmes.
Votre mari, est-ce que vous pensez qu'il serait capable?
Je posais la question, la réponse était non. Voilà, donc c'est les noms de famille de mon côté et de mon mari.
En 2025, d'après l'INSEE, seulement 7% des nouveau-nés portent le nom de leur mère et la majorité d'entre eux ne sont pas reconnus par leur père.
La FIFA va se pencher sans doute après le mondial sur la banderole déployée par les joueurs argentins en marge de leur victoire mercredi face à l'Angleterre. Sur le bout de tissu, on pouvait lire « Les Malouines sont argentines », référence à ce territoire au cœur d'un litige territorial, d'une guerre entre les deux nations au début des années 80. Et l'affaire Nicolas Pelletier prend désormais une tournure diplomatique.
Oui, hier soir, le gouvernement britannique a officiellement demandé à la FIFA le lancement d'une enquête après le déploiement de cette banderole par plusieurs joueurs argentins sur la pelouse du stade d'Atlanta. Dans son règlement, la FIFA interdit les messages politiques dans les enceintes de la Coupe du Monde. Cette règle vaut aussi pour les joueurs. De son côté, le président argentin n'a pas défendu les joueurs de l'équipe nationale. Selon Javier Milei, les îles Malouines se récupèrent, je cite, avec une diplomatie avisée et non avec des gestes de patriotisme bon marché. La FIFA va attendre le rapport des officiels de la rencontre avant de réunir sa commission de discipline. Une sanction devrait tomber après le mondial contre les joueurs argentins qui ont brandi la banderole et contre la fédération argentine. Tous les joueurs de l'Albi Céleste sont donc disponibles pour la grande finale dimanche contre l'Espagne.
Et ce sera à vivre sur RMC, ce sera à New York où l'air est extrêmement pollué, recouvert d'un épais brouillard en raison des incendies qui ravagent actuellement le Canada. Les Bleus jouent demain à Miami, 23h face à l'Angleterre dans ce que l'on appelle la petite finale, autrement dit le match pour la 3e place.
Thibaut Texer pour le journal, il est 7h09 sur RMC et RMC Story, on part au 32-16, c'est Maxime qui est avec nous ce matin. Bonjour Maxime. Alors, est-ce qu'on vous entend, Maxime? On vous entend très bien, Maxime. Vous êtes agriculteur dans le Gers. C'est ce qui vous fait réagir. C'est donc cet accord entre députés et sénateurs sur le futur contenu du projet de loi agricole qui fait beaucoup débat puisqu'il s'agit d'assouplir les réglementations, notamment sur la question de l'eau. Comment ça se passe, la question de l'eau? On est en pleine période de sécheresse. On vit la canicule. Comment ça se passe pour vous, agriculteur?
C'est extrêmement compliqué. C'est très très difficile de voir ces cultures dépérir. Moi, j'ai donc de la vigne, j'ai un petit peu de maïs pour nourrir mes bêtes. J'ai du blé, les rendements ont été impactés aussi. C'est très compliqué. Les fourrages sont moindres et c'est très très difficile de voir dépérir ces cultures sous nos yeux sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et ensuite, ce qui m'a fait vous appeler. C'est surtout la première personne que vous faites réagir à l'antenne. un sujet agricole, c'est quelqu'un, un membre du parti écologiste, et ça, j'ai du mal à cerner vraiment des fois la pertinence de leurs propos.
Maxime, vous savez qu'on donne la parole à tout le monde sur RMC, et vous êtes là d'ailleurs pour répondre.
Les premiers concernés, c'est quand même les agriculteurs, non ? Dans ce genre de sujet.
La question de l'eau, elle est cruciale pour vous. On l'entend. Est-ce que vous en stockez de l'eau ? Est-ce que vous êtes autorisé à le faire ? Est-ce que vous aimeriez pouvoir le faire ?
Il y a quelques années de ça, on a voulu constituer une réserve.
Ouais.
Faire une sorte de barrage. Là, on est une région assez vallonnée. On a de la chance. On peut constituer. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est garder l'eau qui tombe en hiver naturellement, pour remonter celle qui est dans les rivières l'hiver, pour pouvoir la stocker et l'utiliser l'été. Mais ça n'a pas été possible à cause de cette écologie punitive, quoi. On est vraiment muselé par cette écologie punitive et c'est très compliqué.
Vous avez le sentiment qu'on est en train de vivre une, ou qu'on va vers une guerre de l'eau dans ce contexte de chaleur extrême et de sécheresse?
Moi, dans mon cas et dans ma région, je ne pense pas qu'on va vers une guerre de l'eau, mais juste il faut... Il faut être un peu intelligent et arrêter de se tirer des balles dans les pieds. Quand on peut la stocker l'hiver, il faut pouvoir la stocker l'hiver, si on en a besoin l'été. En fait, on est sur des années comme 2021, 2022, 2023 qui sont très humides et 2024, 2025 qui sont assez sèches. Et il faut pouvoir réagir à ces aléas quand ils arrivent. Donc... c'est pas tous les ans, hein. Il faut pas croire et je pense pas que ça va s'empirer.
Merci Maxime, merci pour votre témoignage et bon courage à vous. Maxime qui est agriculteur dans le Gers, ça vous fait réagir, bien sûr vous composez le 32-16, ce sera l'objet aussi du débat d'RMC entre notre voix de droite et notre voix de gauche tout à l'heure à 7h50. Il est 7h12.
RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h16, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce le début du dénouement 5 ans et demi après les faits, après les aveux devant ses avocats? Cédric Jubilard a indiqué où était enterré le corps de sa femme Delphine. Les fouilles menées depuis hier ont permis de retrouver des ossements. Bonjour Maître Malik Hashmani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate des enfants du couple Jubilard, Louis et Elia. Ils ont 12 et 7 ans aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous attendez maintenant de la suite de l'enquête. On retrouve d'abord Pierre Bazin dans le Tarn, sur place, sur les lieux des fouilles. Pierre Bazin, reporter police-justice RMC, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines. Les fouilles reprennent ce matin. Pierre, quelle est la suite des investigations? Qu'est-ce qu'on attend?
Eh bien, déjà, on sait que depuis hier, ce sont plus de 100 gendarmes qui sont mobilisés ici avec 7 experts de l'IRCGN. Vous savez, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale. Il y a entre autres 5 équipes cynophiles qui sont mobilisées pour creuser, ratisser, chercher le moindre indice, le moindre ossement dans cette zone qui a été indiquée préalablement par Cédric Jubilard. Et ça se poursuit ce matin. On a vu passer, il y a quelques minutes, plusieurs fourgons banalisés de la gendarmerie, certainement des équipes scientifique. Et puis, il y a une grande grue qui a été installée dans la nuit, qui doit certainement servir pour effectuer certaines recherches. En ce moment, il y a donc des gendarmes qui s'activent. Même si on est tenu à bonne distance, on entend ces gendarmes qui sont au travail. On est loin de la zone. Pour vous décrire un peu l'espace autour de nous, il y a une route départementale passante tout près de cette zone de recherche avec tout autour de nous des étendues de champs. Et puis la zone de recherche précisément, elle se trouve au milieu d'un petit espace boisé.
C'est donc Cédric Jubilard qui a emmené les enquêteurs sur ces lieux. Qu'est-ce qu'il a dit aux enquêteurs ?
Eh bien écoutez, selon son avocat, Maître Debuisson, Cédric Jubilard a spontanément expliqué ce moment où il a tué son épouse, où il a déplacé le corps. C'est ce qu'il a dit aux magistrats qui l'ont entendu. Et c'est à cet endroit que donc les gendarmes effectuent ces recherches, que ces ossements ont été prélevés. Toujours selon son avocat, Cédric Jubilard a reconnu avoir commis, je cite, un acte abominable. S'il parle au bout de 5 ans et demi, toujours selon Maître Debuisson, c'est pour s'extirper, dit-il, de l'engrenage mensonger dans lequel il était. Précision, il explique également que c'est en pensant à ses enfants qu'il a décidé de parler. La question qui subsiste à l'heure actuelle, pourquoi avoir attendu si longtemps alors qu'il a eu d'autres occasions pour parler, notamment à l'occasion de son premier procès.
Merci beaucoup Pierre Bazin depuis le Tarn pour RMC. Malik Hachmani, je reviens vers vous. Vous êtes donc l'avocate de Louis et Elia, les deux enfants du couple Jubilard. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils ont réagi en apprenant que le corps de leur mère a sans doute été retrouvé ?
Je pense que c'est compliqué, ils sont sous le choc. Je crois qu'il y a de la tristesse, je crois qu'il y a du soulagement et je crois qu'il y a de la colère en fait. Imaginez ces enfants avec une photo de leur mère, de chacun dans leur chambre, souriante, belle, pleine de vie. Et imaginez maintenant qu'on leur parle de ossements en fait. Voilà, donc c'est assez violent quand même.
Et malgré tout, c'est une étape importante, c'est le début d'une autre phase pour eux dans leur deuil, dans leur reconstruction.
Oui, je pense que c'était important. En tout cas, c'était une demande importante de Louis l'aîné. Il faut un corps, en fait, pour pouvoir faire un deuil. En tout cas, essayer de faire un deuil dans un contexte aussi difficile. Et je crois que c'est une étape importante, une étape préalable. Voilà, j'espère que ça va leur permettre d'avancer. Maintenant, ce qu'on attend aussi, c'est que Cédric Jubilard nous explique. En tout cas, j'ai pas lu ses dépositions. Au moment où je vous parle, il doit des explications aux victimes et en premier lieu à ses enfants.
Alors justement, vous lui aviez demandé lors d'une audience il y a un mois, vous lui aviez parlé par écran interposé. Il participait à une audience en visio à ce moment-là. Et vous lui aviez parlé au nom de son fils Louis, en lui disant « Louis attend le corps de sa mère ». Est-ce que vous pensez que cette conversation que vous avez eue avec lui a pu jouer ?
Mais je l'espère, ça voudrait dire qu'en fait il a été ému par la demande de son fils en fait. Oui, j'espère que ça a provoqué une réaction à ce moment-là. Très honnêtement, cela n'a pas été visible.
Sur le moment, il n'a pas réagi ?
Non, il n'a pas réagi, il n'a rien dit.
Mais de fait, quelques semaines plus tard, il y a eu cette lettre, dans un premier temps, les aveux devant ses avocats, et puis ses aveux désormais réitérés devant les juges, avec ses regrets qu'il exprime, ses regrets et ce geste qu'il reconnaît, ce geste qu'il qualifie lui-même d'abominable. Vous y croyez, à ses regrets ? Comment est-ce que vous réagissez ? Vous le croyez sincère ?
Alors... Très honnêtement, forcément, il y a une intériorité de 5 ans et demi où il s'est amuré dans le mensonge. Donc, c'est compliqué de partir de zéro. Moi, j'attends de voir. Je n'ai pas le recul. Je n'ai pas ses déclarations. Moi, j'attends de voir les explications qu'il nous donne. Est-ce que c'est par c'est des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour être technique, ou c'est véritablement
la dispute qui a mal tourné. Ça a l'air d'être le scénario qu'il s'apprête à plaider.
Oui, voilà. Alors, assumer, c'est assumer jusqu'au bout. D'accord ? Pour pouvoir avancer, il faut que les enfants aient une vérité. Donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout de cela. Il y a une première démarche qui a été faite en restituant le corps à la famille. Le corps, c'est très dur de dire cela, parce que maintenant, il reste plus grand-chose de cela. Mais la deuxième étape, c'est de dire les choses comme elles sont, en fait. Pas essayer de faire de la stratégie pour essayer de gagner des années. En fait, on n'est pas sur ça. Aujourd'hui, ce qu'il veut, ce qu'il dit, qu'il fait ça pour ses enfants, il faut aller jusqu'au bout. J'attends cela de sa part par rapport aux enfants, tout simplement.
L'avocate de l'une des amies de Delphine dit « on n'est pas dupe » et évoque justement ce que vous dites, cette stratégie peut-être pour gagner des années, en tout cas pour obtenir la clémence des juges. C'est ça que vous soupçonnez ?
Alors, j'espère que ce n'est pas cela, parce que je défends l'intérêt des enfants et j'espère pour les enfants que Cédric Jubilard, il est honnête. Voilà. Maintenant, je vous dis, je n'ai pas le recul. Je vous dis, on part de 5 ans et demi où il a quand même nié les propos de Louis. En fait, hein. On peut dire qu'il a pu dire à demi mot que son fils mentait, à minima se tromper. Donc, quand même, voilà, on part de zéro. On a un enfant qui a été victime de violences régulières de la part de son père. Donc, maintenant, il est temps de faire, de dire les choses. Et et sincèrement, voilà. Si c'est cette démarche-là, vous savez, si on est logique, si on va jusqu'au bout de la logique, s'il fait ça pour ses enfants, il se désiste, hein. Voilà, il se désiste merci de beaucoup. Son appel et puis on n'en parle plus. Il a fait ça pour ses enfants, on a un corps, voilà. Mais
ce procès en appel qui maître Chemani sera sans doute reporté. Hein, c'est ce qui, en tout cas, ressort des premières déclarations. Il est prévu au mois de septembre. Il y a évidemment désormais cette enquête et ces analyses qui sont en cours sur les ossements pour peut-être aussi faire parler ces ossements. Est-ce que ces ossements pourront parler, dévoiler les causes de la mort de Delphine. Ce sera notamment l'un des sujets qu'on pourra évoquer avec Dominique Rizet tout à l'heure. Dominique Rizet, invité du face-à-face à 8h30 face à Marie Chantré. Merci beaucoup Malika Chemani. Je rappelle que vous êtes l'avocate des enfants du couple Jubilard. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et je remercie également Pierre Bazin, l'envoyé spécial d'RMC qui était avec nous depuis le Tarn. Il est 7h24.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on remonte l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Historien d'Apolline Matin avec la musique de Jurassic Park ce matin pour ce T-Rex d'environ 70 millions d'années qui a été vendu aux enchères pour un montant record.
Eh oui, plus de 50 millions de dollars, c'est inédit. Depuis la découverte du premier T-Rex, c'était en 1900. Nous sommes fascinés par ce dinosaure qui vivait en Amérique du Nord.
Allez, à tout de suite, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire est claire, notre actualité avec Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur. Cette semaine, le squelette d'un authentique dinosaure, un T-Rex, a battu un record lors d'une vente aux enchères à New York. Il a été vendu pour 50,1 millions de dollars.
Oui, ce T-Rex, on lui a même donné un nom. Il s'appelle Gus. Son squelette est parti à un prix deux fois supérieur à celui de l'estimation. Un record qui traduit un nouvel engouement pour ces trésors de l'archéologie. Les squelettes de dinosaures atteignent désormais des prix dignes des tableaux les plus chers du monde. Et si la science était débordée par le marché de l'art, Sébastien, c'est toute la question que pose cette envolée des prix des dinos.
Quand est-ce qu'on a découvert le premier T-Rex ?
C'était en 1900, donc il y a plus d'un siècle. T-Rex, c'est l'abréviation de Tyrannosaurus rex en latin et en français, ça veut dire roi des lézards tyrans. Ce surnom, ce sont des paléontologues qui lui ont donné. Et cette espèce a vécu il y a 66 millions d'années, c'est-à-dire à la toute fin de l'époque des dinosaures. Et son lieu de vie exclusif, c'était l'Amérique du Nord.
Pourquoi est-ce qu'il fascine autant ?
Alors évidemment, c'est d'abord à cause de ses mensurations impressionnantes, hein, 12 mètres de long, 4 mètres de haut, le tout pour un poids de 8 tonnes en moyenne. C'était beaucoup, mais c'était pas le plus grand des dinosaures non plus. Et détail important, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il se déplaçait à l'horizontale, ce qui limitait un peu sa stature.
8 tonnes avec un poids pareil, il ne devait pas se déplacer si facilement.
Eh bien, pas si mal, figurez-vous Sébastien. Un T-Rex pouvait courir à 20 km/h, ce qui en faisait un prédateur très dangereux.
Pourquoi est-ce qu'il fait si peur ?
Alors déjà parce que c'est un très grand carnassier, hein, un des plus grands carnivores de l'histoire de l'humanité. Il mangeait d'autres dinosaures et en général, il s'attaquait au plus gros. À elle seule, sa mâchoire pesait 200 kilos, ses dents pouvaient faire 30 cm de long, et quand sa gueule se refermait sur une proie, la force exercée équivalait à 4 tonnes. Donc forcément, tout ça, ça fait peur. Le T-Rex s'est évidemment installé dans notre imaginaire comme l'archétype du dinosaure méchant.
Et la star de Jurassic Park, forcément. Est-ce que les T-Rex sont des descendants aujourd'hui ?
Eh bien oui, puisque comme la plupart des dinosaures, les T-Rex appartiennent en fait à la famille des oiseaux. Donc techniquement, le T-Rex n'est pas si loin du canari. Et j'aimerais, bah oui, c'est la vérité, hein. Et j'aimerais vous donner un chiffre stupéfiant. D'après des scientifiques, au total, 2,5 milliards de T-Rex auraient peuplé la Terre.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, tous les matins sur RMC à 7h20. Chronique à réécouter, bien sûr, en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'application RMC. 7h28, dans un instant, la météo. Attention, on surveille évidemment ce matin les orages, le journal de 7h30 et après le journal, le match des perdants. La France qui va tenter de sauver sa Coupe du Monde demain soir. Ce match pour la troisième place, la dernière de Didier Deschamps. Mais comment retrouver la motivation sur le terrain? On en parle avec notre consultant Eric Dimeco juste après le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Jusqu'où ira la pression contre les élus? Le maire d'Alès menacé, deux balles de calibre 9 mm trouvées dans sa boîte aux lettres. L'ombre de la DZ Mafia plane sur cette affaire. Le ciel a viré la tempête dans de nombreuses régions. Une tornade a balayé hier Villars dans le nord de Saint-Étienne. Et ces orages et ces vents violents provoquent ce matin des perturbations sur les rails entre Toulouse et Paris. La grande boucle attend son premier coup d'éclat français. Justement, l'étape du jour entre Dole et Belfort est parfaite pour un exploit.
Et d'abord, donc, ce message d'intimidation visant un élu.
Le maire d'Alès a reçu jeudi 2 balles de 9 mm à son domicile et des inscriptions menaçantes faisant référence à la DZ Mafia ont été taguées sur un mur de sa maison. Et Ameline Lachin, c'est son épouse qui a fait cette découverte.
Oui, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres que la femme de Christophe Virenc découvre une enveloppe contenant 2 balles de calibre 9 mm et la signature de la DZ Mafia. Sur les murs de leur clôture, des tags injurieux et menaçants sont aussi retrouvés. « Je n'avais jamais reçu de menaces à ce niveau », confie le maire LR qui y voit, je cite, « la preuve que les actions menées contre ce groupe criminel présent dans la ville depuis l'été dernier pour récupérer les points de trafic déjà existants » portent leurs fruits. Je ne me laisserai pas intimider, fustige Christophe Virenc, promettant de continuer à faire son travail. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été ouverte et confiée au commissariat d'Alès ainsi qu'à la direction de la lutte contre la criminalité organisée.
Ameline Lachin.
On en vient au soulagement pour la famille de Mélanie.
18 ans de prison pour l'adolescent de 15 ans qui a poignardé à mort l'année dernière cette surveillante de 31 ans devant son établissement scolaire en Haute-Marne. Une décision du tribunal pour enfants de Chaumont, applaudie dans la salle d'audience et saluée par Evan, le beau-fils de Mélanie.
Moi, j'en suis très heureux. C'est une étape de franchie. Je considère qu'ils ont très, très bien compris le problème et la dangerosité du personnage. Je me suis exprimé à la barre et moi, Quentin, j'ai décidé de lui pardonner. Je ne compte pas me bouffer la vie alors que lui a décidé de bouffer la sienne. Et il ne mérite pas la haine ni la rage qu'il a pu susciter. Techniquement, il la mérite. Il a foutu sa vie en l'air, quoi. Moi, ma conviction profonde, c'est de faire changer les choses sur le sujet de l'accompagnement des élèves à l'école. De faire en sorte que Mélanie soit la dernière à mourir sur un coup de tête et qu'on soit la dernière famille brisée.
Il est 7h32 sur RMC et on part du côté de Saint-Étienne, touché par les intempéries.
Des orages violents, des averses de grêle, des rafales de vent et de nombreux dégâts hier. Toitures et arbres arrachés, un millier de foyers privés d'électricité et une tornade a même parcouru la ville de Villars. Gilles, témoin de la scène.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit, avec le vent, ça levait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on ne voit plus qu'un petit morceau. Là, l'arbre, c'est carrément couché et tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
Les deux familles de Villars doivent être relogées. La toiture de leur maison a été complètement détruite. Autre conséquence de ces intempéries, un arbre est tombé cette nuit sur les rails dans le Lot, entre Toulouse et Paris. Un intercité parti hier qui devait arriver ce matin est resté bloqué cette nuit en rase campagne. Les passagers ne sont toujours pas arrivés en gare d'Austerlitz. Des retards toujours à prévoir ce matin. La SNCF espère un retour à la normale à partir de 9h.
La politique et le gouvernement qui annoncent la couleur. Il va falloir faire des économies dans le budget 2027.
Ouais, presque tous les ministères devront se serrer la ceinture avec une hausse des dépenses limitée à 0,4%, bien en dessous de l'inflation attendue. Presque 709 milliards d'euros de dépenses sont prévus pour l'année prochaine et le gouvernement demande également aux collectivités territoriales de ne pas augmenter leurs dépenses au-delà de l'inflation. Mais derrière les chiffres, Victor Joinin, ces arbitrages reflètent les choix politiques du gouvernement.
Oui, le gouvernement souhaite augmenter nettement le budget des armées de 6 milliards d'euros. Il compte aussi accorder une rallonge à la transition écologique, par exemple pour la gestion des forêts ou l'entretien des voies ferrées, et donner plus de moyens à la justice et au ministère de l'Intérieur pour lutter contre le narcotrafic, notamment. Enfin, l'enveloppe qui finance la recherche est préservée. Voilà pour les ministères gagnants. En revanche, tous les autres vont devoir faire des efforts, à commencer par celui du travail et de l'emploi, qui part près d'un dixième de son budget alors que le chômage remonte, et sans qu'on sache pour l'instant où les économies seront trouvées. Bercy indique juste vouloir s'attaquer aux dérives du compte personnel de formation. Mais toutes ces orientations doivent d'abord être débattues avec les parlementaires. Le budget de l'année prochaine sera voté à l'Assemblée et au Sénat à l'automne.
La promesse non tenue du gouvernement, il prévoyait des factures d'électricité stables cette année en 2027. Et on apprend qu'elles vont augmenter dès le 1er août de 2,5%. Cela représente 26 euros par an. 20 millions de Français sont concernés. Le gouvernement suit les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie.
7h35 sur RMC, on espère un exploit français aujourd'hui sur la Grande Boucle.
La 13e étape entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition, 205 km, pourrait, Kevin Morand, permettre à un Français de briller aujourd'hui.
Oui, et après des premiers jours compliqués, le champion de France, Romain Grégoire, a retrouvé sa forme. Le franc-comtois sera sur ses terres aujourd'hui.
Ouais, ça donne des motivations supplémentaires. Je connaîtrai un peu les routes, en plus, surtout sur les 50 premiers kilomètres que je connaîtrai par cœur. Dans le Ballon d'Alsace, c'est sûr qu'il y aura un peu de monde. Je vais essayer d'en profiter et de me montrer, parce que ça peut être encore une étape qui peut s'ouvrir aux échappées.
Le profit de cette étape, plate jusque dans les 50 derniers kilomètres avec deux ascensions, dont le Ballon d'Alsace, rend le scénario du jour incertain pour Kevin Vauquelin.
C'est une étape qui peut être piégeuse. On peut avoir vachement de mal à pouvoir faire un pronostic, hein. Est-ce qu'il y aura un échappé, est-ce qu'il y en aura... Pas. Qu'est-ce que les sprinteurs, que les baroudeurs. On a aussi l'image de Mathieu Van Der Poel. Beaucoup de coureurs qui, je pense, sont aussi revanchards, mais je pense qu'on peut aussi rebattre les cartes.
Seuls deux des 12 étapes jusque-là ont réussi à un coureur parti en échappée. Les occasions se font rares. Jordan Jegat ne veut pas la laisser passer.
Il peut avoir une opportunité pour une belle échappée. Maintenant, c'est un départ sur le plat, donc il faudra être quand même un petit peu chanceux pour être devant. L'idéal, ce serait d'être accompagné de bons équipiers à moi, faire une belle montée et basculer dans un petit groupe et jouer la victoire, quoi.
Ce final d'étape escarpé sera un avant goût des deux jours suivants plus difficiles, des Vosges jusqu'aux Alpes.
Intégral Tour des 14h sur RMC.
Les courses.
Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Cabourg. C'est à 20h15. Le pronostic de la Dream Team. Leur favori, le 8 Carnac Wood. Et leur outsider, hélas, Express Arc.
C'est jamais évident, ouais, les noms de chevaux. Vous avez tout sur rmc.fr. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et après la défaite, l'élimination en demi-finale, les Bleus peuvent-ils vraiment se consoler demain en remportant le match pour la troisième place? Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour, salut à tous.
Consultant RMC France-Angleterre demain à 23h, à suivre évidemment sur RMC cette petite finale, comme on dit. Mais est-ce un match pour rien? Comment se remobiliser sur le terrain? Ce sera la dernière de Didier Deschamps. Il y a un enjeu pour Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs. Est-ce que ça peut suffire à en faire un moteur sur le terrain? On en parle dans un instant. Et vous allez le regarder ce match, vous allez l'écouter sur RMC. On vous attend en 32-16 sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. À tout de suite.
RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Bon réveil si vous nous rejoignez, il est 7h40, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. J-1 avant France-Angleterre, mais les Bleus ont-ils vraiment la tête à ça?
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Notre consultant RMC Fil Rouge, durant toute cette Coupe du Monde, Eric Dimeco est avec nous ce matin. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour à tous.
Franchement, comment on remobilise les troupes là pour ce match de demain? Si on est très clair, personne n'a vraiment envie de le jouer ce match.
Oui, il y aura peut-être même personne pour le regarder. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup moins de monde. Oui, c'est un problème, hein. Thomas Tuchel, l'entraîneur anglais, en a parlé, a dit que personne n'avait envie de le jouer, mais qu'il le ferait par professionnalisme. Il faut savoir qu'à l'Euro, ça n'existe plus depuis le début des années 80, ce match-là. Le match est perdant. Alors souvent, on fait jouer les garçons qui ont peu joué et qui ont été investis. Mais bon, ça... les équipes sont frustrées, sont contrariées, ont pas envie de disputer ce genre de match.
Ouais. Pour vous, il faudrait le supprimer, ce match pour la troisième place?
Oui, il peut y avoir débat, hein, puisque le débat a été lancé, je l'ai dit, par le coach anglais. Mais bon, c'est dans l'ADN de la Coupe du Monde, donc c'est un débat qui est peu important finalement par rapport à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir sur cette Coupe du Monde et sur l'évolution de la Coupe du Monde. Mais en effet, deux équipes démobilisées qui ont plus envie de jouer, qui ont envie d'être en vacances, ça peut donner un match inintéressant. Mais il y a eu des buts sur ce genre de match dans les éditions précédentes aussi.
Bon, on va quand même, une fois qu'on a dit ça, espérer un beau spectacle demain soir. On a le sentiment, alors, de ce qu'on lit des échos dans la presse, que malgré tout, le staff des Bleus et Didier Deschamps essayent de remobiliser les troupes. Quels peuvent être les ressorts de ce match? Alors, c'est la dernière de Didier Deschamps. Est-ce que les joueurs peuvent avoir envie d'offrir un beau match à Deschamps?
Oui, c'est possible. Alors souvent, je le disais tout à l'heure, on profite pour ce genre de match de faire jouer des garçons qui ont peu joué, qui du coup auraient une motivation peut-être supplémentaire par rapport à ceux qui sont sortis déçus mardi soir du match et qui ont peut-être plus la tête ni les jambes à cette confrontation. Ça peut être ce ressort-là. Ça peut être. Alors il y aurait eu l'Argentine en face. Il y aurait eu des ressorts un peu plus particuliers avec ce qui s'était passé lors de la dernière Coupe du Monde.
Ça aurait été la revanche.
Mais voilà. Mais là. Mercredi soir, tout le monde était pour les Anglais en France, je crois. Enfin, une grande partie, en tout cas, des Français. Donc, c'est presque un match fraternel, on va dire, alors que c'est nos ennemis intimes, les Anglais, normalement. Mais oui, là, c'est il y a toujours un moyen de jouer sur des ressorts. Porter le maillot de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est important aussi pour les joueurs. Donc, avoir envie de se montrer, avoir envie de respecter ce match-là et le maillot de l'équipe de France. Didier va jouer sur toutes ces cordes-là, bien sûr.
Restez avec nous, Eric Dimeco. On va aller au 32-16, que Katia est avec nous depuis le Loiret. Bonjour Katia.
Bonjour Sébastien, bonjour Eric. Je suis trop contente d'être en direct avec vous et Eric Dimeco, j'adore.
On est ravis de vous accueillir,
merci,
Katia.
Merci.
Vous allez regarder demain le match?
En toute franchise, au début, j'avais pas du tout envie. Mais après, je me dis, c'est pas bien parce qu'ils nous ont fait rêver pendant toute cette Coupe du Monde. Ça reste un match de compétition et en espérant bien sûr... une victoire. Moi, c'est vrai que depuis mardi soir, j'ai l'impression de vivre une période de deuil ou d'être dans un cauchemar et j'ai envie de me réveiller. Je comprends vraiment pas cette défaite et je me l'explique pas, mais bon, c'est comme ça. Quand on est supporter, il faut être là dans les bons et mauvais moments. Et en plus, pour Didier Deschamps, qui a été un super coach, ça lui permettrait de lui offrir et qu'il puisse soigner un peu sa sortie, parce que j'imagine... Déjà, moi, j'ai le cœur très, très lourd, donc je n'ose même pas imaginer celui des joueurs et de tout le staff. Donc peut-être qu'une victoire pourrait un petit peu alléger tout ça et repartir après en vacances et chacun dans son championnat.
Ouais, on se serre les coudes, nous dit Katia.
Il faut, parce que après, bien sûr, on regarde ça avec beaucoup, beaucoup de regrets, un peu même d'amertume, parce que ils avaient tout était réuni pour jouer cette belle et grande finale. En plus, je déteste les deux équipes qui vont se présenter dimanche soir.
une plus que l'autre quand même.
Eric.
Hein. Oui, non, mais dans les leviers pour motiver les joueurs sur ce match-là, il y a aussi le respect et envie de donner du plaisir aux supporters aussi, qui ont été énormes pendant. Enfin, il y a eu un engouement comme souvent dans ce genre de compétition de la part du public, et ça peut être aussi un des leviers de Didier pour motiver les garçons, voilà, faire plaisir aux supporters.
Eh ben, écoutez, on va essayer de se faire plaisir. J'espère qu'ils vont nous faire plaisir aussi. Merci beaucoup Katia pour votre appel. Bon match à vous demain. Merci Eric Dimeco. La finale, bien sûr, dimanche soir, Argentine-Espagne, ce sera à 21h, ce sera sur RMC. Et donc, le match pour la troisième place, cette petite finale France-Angleterre, c'est demain à 23h, à suivre en direct en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. RMC qui sera en direct des États-Unis dès 20h et jusqu'à 3h du matin. Merci à tous les deux, il est 7h46.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, la guerre de l'eau est-elle déclarée? Les méga-bassines, les pesticides aussi, les néonicotinoïdes réautorisés dans le projet de loi agricole qui sera soumis au vote final des députés et sénateurs lundi. Ce texte qui fait beaucoup parler, qui fait polémique, c'est le thème de notre débat RMC ce matin avec la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour.
Bonjour.
Avec Charles Consigny qui sera avec nous dans quelques secondes. La voix de gauche, la voix de droite, face à face. Jusqu'où faut-il aller pour sauver les agriculteurs? C'est notre débat du jour. À tout.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC à 7h47 sur RMC avec Victor Porcher et la chanteuse américaine Lauryn Hill est de retour en France.
Normalement, ça vous la resitue immédiatement, l'ex-chanteuse des Fugees, mais c'est bien en solo qu'elle sera en concert à l'Accor Arena de Paris le 2 septembre prochain. Et la billetterie doit ouvrir ce matin à 10h. Alors, Ray Lady or Not, prête ou pas, les fans l'espèrent parce que Lauryn Hill a laissé un souvenir particulier chez nous. Novembre 2018, la même salle, 2h30 de retard et une prestation jugée chaotique, huée par le public. Alors cette fois-ci, il y aura un côté réunion de famille. Elle sera sur scène avec ses deux fils. Ses deux fils qui sont, eux, aussi chanteurs.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h49, vous êtes bien sur RMC, RMC Story, c'est l'heure du débat, RMC, le débat du vendredi, avec la voix de gauche, Cécile Duflo, et avec la voix de droite, Charles Consigny, qui fait à l'instant, en direct, son entrée sur ce plateau. Bonjour Charles et bonjour. Bienvenue à tous les deux. On parle de ce projet de loi agricole qui sera soumis aux députés et sénateurs lundi pour le vote final. Hier, ils se sont mis d'accord sur un texte commun de compromis, mais qui contient la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide tueur d'abeilles, la facilitation aussi des autorisations, des retenues d'eau. Alors jusqu'où faut-il aller pour sauver les agriculteurs, libérer les contraintes environnementales? Charles, est-ce que la ligne rouge est passée?
Non, alors je suis triste quand même qu'on en vienne à réintroduire un pesticide que l'on sait cancérigène. Ça, c'est quand même une connerie. Il faut dire les choses comme elles sont. Et les lobbies qui ont réussi à obtenir ça sont criminels. Et les responsables politiques qui reprennent ça à leur compte, à mon sens, font une erreur. C'est une régression.
Qui sont autorisés dans les pays voisins, dans tous les pays européens.
Oui, mais les pesticides, là, c'est le juriste qui parle. Honnêtement, quand il y a un débat sur la toxicité d'un produit, en général, c'est qu'il est toxique et que l'industriel qui le fabrique fait tout pour enfumer tout le monde. Il y avait eu le cas sur certains médicaments qui donnaient des maladies neurodégénératives. En fait, il y a le cas sur un tas de produits. En réalité, c'est l'industriel qui freine, qui enfume, etc. Donc moi, je pense que même, d'ailleurs, dans le doute, dès lors qu'il y a un débat sur la toxicité d'un produit, faut s'en passer. En revanche, s'agissant des retenues d'eau, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font déjà leur propre retenue d'eau. Moi, j'ai le cas que je connais dans le Jura, à côté de chez moi, où il y a des agriculteurs qui ont créé leur propre bassine. Alors, c'est peut-être pas des méga bassines, mais c'est des bassines. Et ce que je lis, c'est que, au fond, il faut regarder dans le détail des choses les endroits où il y a vraiment une espèce de surabondance d'eau en hiver, en automne-hiver, et les endroits où, en fait, l'eau n'est pas surabondante, ne permet pas d'en garder pour en stocker pour l'été. Moi, ce que je pense, et je termine par là, c'est que il faut accepter qu'on change ce qu'on cultive. Le maïs qui demande beaucoup d'eau en été, si c'est plus compatible avec le climat actuel en France, on fait plus de maïs, faisons autre chose.
Alors, sur le pesticide, on va pas y revenir parce que j'imagine que vous êtes d'accord. En revanche, sur l'eau, Cécile, jusqu'où faut-il aller pour permettre aux agriculteurs d'arroser leurs champs? On avait Maxime tout à l'heure, agriculteur dans le Gers, qui nous disait: en ce moment, je suis en train de voir mes cultures crever, donc j'ai besoin.
D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on soit d'accord, Charles et moi, ça arrive pas tellement souvent, sur la protection de la santé, ce qui est quand même la base. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus choquant que cette loi puisse être votée. Et je pense que les parlementaires qui vont appuyer sur le bouton oui, il va falloir qu'ils se posent des questions, parce qu'un jour, c'est à eux qu'on pourra demander des comptes. C'est pas une petite histoire pour qu'on en arrive là. Effectivement, comme l'a dit Charles, c'est que c'est très grave. On se souvient ce qui s'est passé avec la loi du plomb. On sait que la France est un pays où il y a plus de cancers que dans d'autres pays. Enfin, honnêtement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Sur la question de l'eau, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Charles. Il a dit qu'il y a des petites retenues d'eau là où c'est possible, etc. Le sujet de ce texte, c'est qu'il autorise, ou plus exactement, il rend possible de manière plus rapide des méga-bassines dont on sait que ça ne marche pas et que c'est reculer pour mieux sauter. Et je suis évidemment encore d'accord avec ce qu'il a dit. C'est intéressant. Sur le fait que quand on cultive des cultures qui ne sont plus adaptées au climat, alors ça vaut pour le maïs super irrigué, mais parce qu'on peut faire d'autres protéines, mais ça vaut aussi pour d'autres sujets qui sont des sujets qui très identitaire pour le pays, comme le vin. On sait qu'il y a des zones de France où ça va être plus compliqué de cultiver certains cépages. Donc le vrai enjeu pour l'avenir de l'agriculture, et pour répondre à votre question, sauver les agriculteurs, c'est pas essayer de faire tenir un modèle qui marche plus avec le dérèglement climatique encore quelques mois, quelques années, au profit des plus gros d'entre eux. C'est engager tous ensemble et les accompagner, y compris par des aides financières, à aller vers un modèle de culture qui est tenable avec les conditions climatiques qui sont celles qui sont devant nous.
Après, les agriculteurs disent eux-mêmes avoir le sentiment d'être pointés du doigt, le sentiment parfois de d'être ciblés par toutes sortes par des revendications écologistes et finalement d'être étranglés aussi par les normes. C'était aussi ça l'enjeu de ce texte, c'était de libérer un certain nombre de normes. Là-dessus, Charles.
J'échange quand même. Alors, ça fait pas une vérité générale, mais j'échange quand même avec beaucoup d'agriculteurs. Je sais pas si c'est tant les agriculteurs que les industriels et que certaines grosses structures agricoles, si vous voulez, qui confinent à l'industriel finalement, qui deviennent des industriels de l'agriculture. Les agriculteurs tels que je discute avec eux, ils ont effectivement beaucoup de normes à respecter. Ce qui les emmerde, ce n'est pas tant les normes quand elles sont des normes d'ordre sanitaire qui visent à les protéger eux, à protéger les consommateurs, voire à protéger l'environnement. C'est plutôt le fait qu'on importe des produits qui, eux, ne doivent pas respecter les mêmes normes. Donc, par exemple, le traité du Mercosur, il est singulièrement détesté par beaucoup d'agriculteurs, à part peut-être par les viticulteurs qui vont exporter du vin, mais sinon, ils sont quand même très opposés à ce traité. Et c'est le fait qu'on leur demande finalement de faire de l'administratif. Et ça, c'est quand même un truc insensé, mais c'est la France. Quelqu'un qui est 10 heures, 12 heures par jour dans son champ, 7 jours sur 7, on lui demande en plus de se taper 2 heures de traitement administratif. Ils doivent déclarer s'ils ont labouré tel champ, pas tel champ. Ils sont contrôlés par satellite. Enfin, ça, c'est surtout ça qui leur pèse. Je suis pas sûr que ce soit vraiment les normes sanitaires.
Bah, vous disiez les importations, par exemple, l'acétamipride. On va importer des noisettes cultivées à l'acétamipride.
C'est tout à fait anormal. Et là, pour le coup, mais c'est bien, c'est notre dernier débat de cette année.
Je crois qu'on ne peut pas cultiver de noisettes sans l'acétamipride.
Alors, c'est plus compliqué. Si, ça existe des noisettes bio. Donc, quand les noisettes sont bio, il n'y a pas d'acétamipride. C'est sûr que c'est plus compliqué. Et notamment sur les questions des betteraves, il faut travailler différemment. Et là aussi, Charles a raison, c'est une bonne fin d'année. C'est que plus vous faites des cultures.
On va pouvoir appeler l'émission.
On va vous réconcilier aujourd'hui.
Non. Moi, j'aime bien que, justement, sur ces questions-là, la très, très grande culture, monoculture qui rend les cultures plus vulnérables. Il y a plein de recherches agronomiques, c'est pas d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce sont des recherches agronomiques qui montrent que quand on mixe les cultures, quand on fait une chose qui est millénaire, c'est-à-dire qu'on change les cultures d'année en année, qu'on n'utilise pas le sol uniquement comme un substrat enrichi de produits chimiques, ça peut fonctionner différemment. Mais sur la question des importations et des exportations d'ailleurs, la question des clauses miroirs, la question de protéger notre agriculture et aussi de protéger nos commandes. Et du coup, je voudrais vous donner un exemple. Quand on fait des vêtements, quand on fait des vêtements en coton, ben on utilise beaucoup d'eau et notamment on importe énormément, on produit pas de coton en France. Mais il y a une culture qui fait du textile qui s'appelle le lin. Et par exemple, une entreprise comme la SNCF a décidé de changer totalement le matériau de ses tenues de travail, ce qui est considérable comme commande, de le faire en lin produit en France. Le lin n'est pas une plante qui a besoin d'irrigation. Ben, typiquement, quand on pense l'agriculture de manière globale, et y compris sur l'alimentation, où on change la logique des industriels, je pense que tout le monde va mieux. Les agriculteurs, les consommateurs, le pays, notre balance extérieure. Donc je pense que c'est ça, et c'est ce modèle-là sur lequel il faut travailler.
On a presque réussi à vous réconcilier ce matin pour le dernier
débat. Pour l'avenir de l'agriculture en France.
Voix droite sur l'avenir de l'agriculture. Cécile Duflo, Charles Consigny, merci à tous les deux. Il est 7h57 dans un instant, le journal de 8h avec Alain Cédric Jubilard qui a donc finalement indiqué où il avait enterré le corps de sa femme. Nous retournerons bien sûr en direct dans le Tarn. Et juste après, l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre, on va faire un bilan économique de la Coupe du Monde ce matin.
Oui, le chiffre d'affaires de la FIFA a explosé, mais il faut dire c'est normal avec une Coupe du Monde et 104 matchs.
A tout de suite, la météo bien sûr avant le journal. Anthony Casmaric qui nous dira que la journée sera encore instable et un peu moins chaude.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.